Bonjour à tous et merci Thorien et merci à tous les intervenants de cette séance inaugurale de leur mot d'accueil. La séance qui s'ouvre maintenant s'intitule « L'événement et ses lectures ». Alors pour les collègues qui viennent d'arriver à Lyon, peut-être ont-ils vu sur les panneaux d'affichage l'annonce de la Biennale d'art contemporain dont les mots sont en résonance à la fois avec le thème du colloque et avec la séance qui va nous occuper, puisque vous avez peut-être vu sur ces panneaux « Entre-temps, brusquement et ensuite ». Ensuite, nous sommes dans une session sur la lecture de l'événement, avec une progression, je dirais, que les organisateurs ont sans doute voulu. Je les remercie vraiment beaucoup de m'avoir confié la présidence de cette session, alors que je n'ai vraiment rien fait dans l'organisation. Mais s'il me permet cette lecture de leur travail, j'ai l'impression que cette session est une forme de métonymie de l'ensemble du colloque, dans la mesure où on va partir avec Ralam et Hanna de l'Université du Caire, on va partir de la brutalité de l'événement, de l'irruption de l'événement, pour essayer progressivement, au fil de la session, de mettre des mots sur et de proposer des lectures à cet événement. Alors, comme nous avons déjà un petit peu de retard, je ne serai pas plus long. Je vais céder la parole à Rara Hanna de l'Université du Caire, donc professeur émérite du département de français de la faculté des lettres de l'Université du Caire. Je pense membre fondatrice de l'Université française d'Égypte et conseillère du ministère de l'enseignement supérieur à ce titre. Elle a présidé aussi l'Association égyptienne des professeurs de français de 2004 à 2008. Et c'est aussi un écrivain, rédactrice de contes pour enfants, qui a obtenu des distinctions prestigieuses en France comme en Égypte, puisqu'elle a été chevalier des palmes académiques en 2006, et le prix en 2007 de la distinction scientifique et de mérite en 2010 de l'Université du Caire. Je lui cède la parole donc pour un propos, écrire le printemps arabe, rupture ou continuité.
Je voudrais tout d'abord exprimer ma joie de me retrouver ici à l'Université Lyon 2 après 37 ans. Je garde toujours ma carte étudiante de l'année 76-77 et je remercie vraiment M. Bonne de m'avoir invité. Je remercie les organisateurs du colloque. C'est vraiment avec une grande émotion que je revois des amis, des lieux et des visages. Et je vous suis vraiment reconnaissante de m'avoir donné cette occasion. Donc, je commence. J'essaierai. J'ai tout parlé. Comment écrire l'événement? Quelle langue, quelle forme et quel genre les écrivains choisissent pour écrire leurs témoignages, exprimer leurs sentiments et leurs pensées? La production littéraire des écrivains du printemps arabe, née dans une période de révolution, de révolte et de tension, tissée d'une autre chair, lourde de sang et de violence, n'est que le reflet de la brutalité extérieure de la société qui les entoure. Est-elle rupture et destruction ou innovation et reconstruction? Est-elle une volonté de modifier, de diversifier, au lieu de répéter toujours les mêmes choses? Fruit des événements sociaux, économiques et politiques, cette production littéraire est une résultante sociologique qui puise son inspiration dans les besoins de son temps. Est-elle donc un renversement de la méthode de vivre et de penser? Une quête de renouveau, une recherche d'une forme d'expression originale? L'écrivain devient-il un moi collectif qui exprime sa société? Cette idée du non-moi suppose-t-elle une conception nouvelle de la langue littéraire? Nous allons essayer de répondre à ces questions en analysant les premiers textes que le printemps arabe a suscités, soit en Égypte ou en Tunisie. Les deux révolutions égyptiennes et tunisiennes ont commencé par le feu, le sacrifice et le sang. le 25 janvier 2011, fête de la police, jour férié en Égypte pour célébrer le combat engagé contre l'occupation britannique à Ismailia en 1952, les jeunes internautes suggèrent de faire de ce jour un jour de colère et de protestation. Ils prévoient des manifestations contre la corruption, la torture, la pauvreté et le chômage en suivant l'exemple de la Tunisie. Le 17 décembre 2011, Mohamed Bouazizi, l'étincelle pour emprunter le terme de Taher Ben Jelloun, qui a déclenché la révolution tunisienne, un marchand ambulant à qui on a confisqué sa marchandise s'est immolé par le feu à Sidi Bouzid. Ce geste de désespoir est le début des manifestations des jeunes chômeurs tunisiens suivis des affrontements sanglants. Un mois plus tard, un patron d'un petit café au centre-ville du Caire, va s'immoler par le feu devant l'assemblée du peuple parce qu'il n'ayant pas pu obtenir du pain subventionné. Une deuxième tentation est celle d'un salarié, une troisième est celle d'un chômeur qui trouve la mort à cause de la gravité de ses brûlures. D'autres drames semblables ont eu lieu dans quelques provinces égyptiennes qui ont commencé dans le drame et qui continuent dans la violence, la mort et la panique. Pourquoi cette appellation printemps arabe et révolution de jasmin? Puisque le vent s'est levé en janvier, comme le dit Ali Abdesi dans son roman. C'est un printemps en plein hiver, un plein temps de répression, de drame et de sang, de torture. Est-ce parce que le printemps égyptien, le Khamsin, c'est un vent violent de sable qui nous empêche de voir clair? Et on refuse aussi cette appellation révolution de jasmin, et Médabri, je cite, Un jasmin s'assimile à un acte de résistance non violente contre la dictature. Les dissidents en Chine l'ont choisi signe de ralliement pour manifester pacifiquement leur défiance politique. Appellation empruntée, appellation qui vient de l'étranger et qui ne correspond pas à la vérité, puisque Médel nous dit non violente. Au contraire, c'était bien sûr la violence totale. Après s'être culpabilisé de l'usage de cette expression, surtout après que certains internautes l'ont critiqué et refusé, Medab en revendique l'usage et déclare, je cite, « Si le jasmin ne pousse pas, faisons-le pousser ». Laissons donc ces appellations de côté, essayons de suivre ces deux révolutions sans pareil et jamais vues. Une révolution tout à fait différente pour les raisons suivantes. Une révolution spontanée et improvisée, un soulèvement qui fait naître par pur hasard une révolution. La première phrase écrite par Medeb dans son livre sur le printemps arabe, je cite, c'est arrivé par surprise, personne ne s'y attendait. Deuxièmement, une révolution de jeunes diplômés ou éternels chômeurs. Une révolution facebookienne où les sites sociaux comme Facebook et Twitter ont été les facteurs déterminants dans le cours des événements politiques. La génération de l'Internet s'exprime librement et avec audace. Elle assure la circulation de l'information. Les jeunes blogueurs ont fait l'événement sur un support de nouvelles formes d'imagination, de technologie et d'action politique. Une révolution en famille, puisque les familles égyptiennes, je crois aussi tunisiennes, allaient avec les enfants le repas et passaient même la nuit à la place Tahrir ou peut-être à l'avenue Bourguiba. Une révolution faite par un mot français, le fameux dégage adopté par les Tunisiens et les Égyptiens. D'autres mots anglais sont employés comme game over, go, des pancartes polyglottes partout, dear tourists, don't leave, we will protect you, ou leave. Let us live. Une révolution de toutes les langues, mais aussi une révolution dans toutes les couleurs, puisque chansons, poèmes, danses, musique, pièces animaient les soirées de la place Tahrir. Une révolution faite dans l'humour. Les mots prononcés par les dirigeants sont devenus des clichés passe-partout. Je vous ai compris de Ben Ali, déjà prononcé par De Gaulle en 1958, sujet de plusieurs anecdotes en Égypte, fait écho aux paroles de Moubarak dans son dernier discours aux insurgés égyptiens, « Je vous écouterai ». l'expression sans cesse répétée par Mohamed Morsi, « Je vous aime tous » et aussi sujet à des plaques. « Va-t'en, mon bras est fatigué », écrit un manifestant sur la pancarte qu'il tient. « Va-t'en, je suis pressé, ma femme va accoucher », écrit un second. Et un troisième dit « Fais vite, le coiffeur m'attend ». Des anecdotes qui circulent de bouche à oreille. On demande à Moubarak de préparer son dernier discours, son discours d'adieu, et d'adieu pour son peuple. Et Moubarak, étonné, qui demande « Pourquoi le peuple va-t-il partir ?» Des cérémonies de mariage sont organisées en place Tahrir en pleine révolution. Des graffitis sur les murs, les pavés, les panneaux de signalisation routière et sur les visages. Les peuples arabes ont fait l'histoire, une histoire imprévue et inattendue, mais aussi différente et sans pareil. La sensibilité littéraire a toujours précédé les événements historiques qui devaient la confirmer. Les écrivains restent des voyants et des visionnaires, pressentent et prévoient ce qui va arriver. Les écrivains maghrébins d'expression française ont toujours vécu une crise, un déchirement. Ils se sont révoltés contre la religion, la condition de la femme, le pouvoir dans toutes ses formes, cherchant à introduire un choc dans l'esprit de ceux qui les lisent. Je vais citer Khayreddine, Larabi, Khatib, Yassine, et je vais sauter sur les exemples, mais je vais dire aussi que dans l'œuvre de ces écrivains maghrébins d'expression française, deux réalités sont mélangées, une réalité observée et vécue, et une réalité imaginée et rêvée. Le rêve rimbaldien de changer la vie a été celui des écrivains, et Malek Alou la déclare. Je crois à une poésie essentiellement révolutionnaire, donc à une poésie qui change la vie. Ce désir de changer la vie, cette quête de renouveau, demeure-t-il dans l'écriture des écrivains du printemps arabe? Premièrement, voyance et prophétie. Dans la préface du printemps arabe, prémisse et autopsie littéraire, Jacques Femme d'Angot pense que les écrivains du Maghreb avaient prédit les bouleversements sociopolitiques en fermentation dans l'inconscient collectif de la communauté nord-africaine. Il ajoute plus loin, force est de reconnaître que les symptômes de cette révolution constituaient déjà le soubassement de la textualisation de cette société des peines, avec violence dans les œuvres d'éminents auteurs du Maghreb. Les littératures arabes, maghrébines et égyptiennes prennent pour objectif ces dernières années la crise sociale. Elle exprime le désarroi, la dénonciation, l'indignation contre un réel humiliant et avilissant, présage d'un orage, d'un vent qui se lève au printemps. La littérature arabe des dernières décennies évoque le désenchantement du peuple, la corruption des dirigeants. Le printemps arabe est bien l'aboutissement de cette imagerie collective de quelques récits romanesques. L'écrivain est un voyant, doué d'un pouvoir de prédiction et d'une mission de sensibilisation, de sensibilité littéraire, pour employer le terme d'Albarès dans l'aventure intellectuelle du XXIe siècle. Lorsqu'il écrit, je cite, « La sensibilité littéraire a toujours, dans notre siècle, précédé les événements historiques qui devaient la confirmer. » La traductrice américaine du livre « Talisman » d'Abdelwahab Medab lui écrit, vous l'avez annoncé déjà dans Talisman, ce que les insurgés repliés dans les régions reculées et ingrates referaient surface un jour et prendraient leur juste revanche. Elle voit donc une ressemblance entre l'insurrection évoquée dans Talisman et la présente révolution. Dans l'épigraphe du fleuve détourné de Rachid Memouni, nous lisons cette citation. Ce que nous voulons, c'est de réveiller nos compatriotes de leur sommeil, leur apprendre à se méfier, à revendiquer leur part de vie en ce monde, afin que les suborneurs ne puissent plus exploiter l'ignorance des masses. La révolution est aussi annoncée dans ce roman, je cite, « Notre action s'inscrit dans le sens de l'histoire. Tous les opposants seront impitoyablement éliminés. Nous n'hésiterons pas, si nécessaire, à recourir à la violence révolutionnaire. » Et plus loin, Mimi ajoute, apprendre au peuple à ne plus se laisser piéger, à descendre dans la rue pour un oui ou pour un non. Nouvelle d'Algérie de Maïssa Bey et d'autres œuvres, je n'ai pas le temps de les analyser. Donc, toutes ces œuvres annoncent bien la révolution. Le printemps arabe est surtout un besoin de liberté, de la narration des vécus contraignants. La littérature avertit, décrit, dénonce et annonce. Elle dit, redit et prédit l'histoire et contribue peut-être à la faire. Réalité et fiction se mélangent, où le printemps arabe est intégré dans le registre du politique, du social et du culturel. Les auteurs égyptiens également annoncent la révolution dans leur écriture. Les ailes du papillon de Mohamed Selmer. Ne s'agit-il pas d'une révolte du peuple que l'armée soutient et refuse de combattre? La porte de sortie, Bab al-Khuroug, de Ezzeddin Choukri Fischer, écrite en 2012, qui annonce tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et tout ce qui se passera en Égypte jusqu'à l'an 2020. Les lecteurs sont étonnés de voir dans ce roman une identité totale avec entre fiction et réalité. Ezzeddin Choukri, le voyant, le visionnaire surprenant à l'avenir déjà vivant dans ses prunelles, pour emprunter le terme de Hugo dans les châtiments. Notons une autre marque de continuité, c'est le poème de Aboulkas El Chebbi, le poète tunisien, cité avec variation de traduction chez Robert Solé, Ben Jeloun, Medeba, Abbès et Noureddine Hichami dans leurs œuvres sur la révolution. Ce poème est l'icône de la révolution des peuples arabes par excellence. Il figure dans l'hymne national tunisien. Les manifestants en Tunisie et en Égypte chantaient ces vers comme leurs parents les ont chantés en 52 et leurs grands-parents l'avaient chanté en 52 et en 56. Ce fameux poème est aussi récité par les manifestants égyptiens dans la place d'Arles. Les premiers mots de ce poème, « Si le peuple un jour » est le titre d'un chapitre de l'œuvre de Radwa Achour, plus lourde que Radwa. Radwa, c'est le nom de l'auteur, mais aussi le nom d'une montagne en Arabie saoudite. Cette œuvre est à la fois une autobiographie, un journal et un récit de témoignage. Ce vers d'El Chebbi n'est pas le seul point commun dans la production littéraire de ces auteurs de la Révolution, car Ben Jeloun, Medeb Solé, Abbesi écrivent le même livre, chacun à sa manière. Nous y trouvons les mêmes événements, les mêmes situations, parfois même les mêmes exemples dans ces livres. Le poète égyptien Ahmed Abdelmouhdi Hghazi parodie aussi ce poème d'El Chebbi en utilisant les vers de ce poète tunisien comme un refrain qui scande et rythme son poème Le retour de l'âme. Mais comment écrire la révolution? Quels genres choisir et quelle langue utiliser? D'après ce qu'on a vu et trouvé de cette production littéraire sur la révolution, elle se place dans le cadre de la littérature de témoignage. J'ai toute une liste des œuvres, je ne vais pas sauter beaucoup de choses, donc j'allais citer dans ces exemples de témoignage, mais je vais passer pour le Facebook, qui est une nouvelle forme d'écriture, pas seulement dans ses œuvres sur la Révolution, mais même avant, chez Rahim Abdelmoudi, j'ai vu citer des exemples. Et je passe pour terminer à la nouvelle langue, qui est essentielle, la nouvelle écriture, oui, je sais, mais je crois que c'est le temps de... Rahim Abdelmoudi, dans la préface de son ouvrage « Les jours de Tahrir », écrit, je cite, comment écrire sur la plus grande révolution dans l'histoire de l'Égypte? C'est cette question qui me saute aux yeux chaque fois que je pense à écrire. La raison est très simple. Ce que j'ai vu depuis le vendredi de la colère jusqu'au lancement de Moubarak à la présidence dépassait toute prévision. Et c'était plus grand que n'importe quel sentiment. L'auteur réalise qu'il a besoin d'une nouvelle langue, une langue céleste, une langue de feu. Je cite... Une langue de feu, une langue teinte de rire et de larmes, qui me ressemble quand je ris, parfois, et pleure à d'autres moments. Les Égyptiens ont dégagé du ciel, de leur ciel, toutes les nuages noirs qui n'ont jamais plu, ni été découverts. Ils ont dessiné sur l'horizon un arc-en-ciel absent. Ces quelques lignes qui inaugurent la préface du livre de montre bien la nécessité d'une nouvelle langue céleste, de feu, peinte de rire et de larmes pour raconter et témoigner ce qu'il a vu de ses propres yeux. Le titre du poème de Ali Rachid, La Révolution Spicy, fait allusion à l'accusation adressée aux manifestants d'avoir reçu des repas de Kentucky. Le titre imagé du poème tunisien Ishami, Mes verbes sont partis vendre le vent, est révélateur d'une nouvelle langue. Ces poèmes de Ishami contiennent des mots familiers, un vocabulaire de tous les jours, citant par exemple les titres des deux poèmes Machin et Il continue à zapper sur Facebook. On remarque dans ces ouvrages une langue commune, familière, dialectale, boniche, timax, sorte de fort by fort, nénette, jugeote, canaille, mais aussi le vulgaire gagne son éloquence. Je crache sur leur figure, des idiots aux fesses et aux idées carrées. Texte polyglotte, parsemé de mots latins, anglais, arabes, dialectales et classiques, et écrit en français ou en arabe, des dictants, des proverbes, etc. Mais notons que cette nouvelle langue existe même dans la rue, en Égypte, où un jour devient matin de la révolution, sabah al-sabr. Et les jeunes deviennent les jeunes six, c'est une appellation donnée par les Égyptiens aux jeunes qui manquaient de responsabilité et de sérieux. Ce sont ces jeunes six qui ont fait la révolution. Et les révolutions arabes ont changé l'écriture, écrit le romancier soudanais Amir Tagesser dans le quotidien égyptien Al-Ahram le 23 décembre 2012. Je conclue. En effet, le lexique employé est celui du Facebook et de Twitter. Il autorise la parole, l'échange, la confidence et facilite la relation interactive, ajoutant la facilité, la gravité et la gratuité du web. Cette nouvelle écriture est à la fois continuité et rupture. On y trouve les mêmes idées propres à toute révolution, mais avec un lexique de l'époque. Mais la littérature de la révolution n'est pas encore écrite, car ces révolutions du printemps arabe ne sont pas encore achevées, et la vérité reste absente. Ali Abbès le confirme, je cite, « Si vous cherchez la vérité, passez votre chemin, car aucun romancier ne l'a trouvée. » Et ménagez votre monture puisque vous ne la retrouverez jamais, nulle part. Pardon, vous ne la retrouverez nulle part. Le président tunisien, Nassef Merzouqi, déclare devant le Parlement européen en parlant des révolutions arabes. Tout est en jeu, rien n'est encore joué. Et ceci s'applique aussi